19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'Afrique a assurément un passé, dont celui très ancien des origines de l'homme. Pour autant, ce continent aurait-il une histoire ? Pour bon nombre, rien n'est moins sûr. À l'image du fameux discours de Dakar prononcé à l'université Cheikh Anta Diop en 2007, qui affirmait que l'homme africain n'était pas assez rentré dans l'histoire. Non, l'Afrique n'est pas non plus le terrain exclusif d'expéditions ethnographiques, croisières noires qui firent la richesse de nos musées français. Elle est aussi un laboratoire, celui de l'historien, de l'archéologue. Dans cette quête, François-Xavier Fauvel est devenu un chercheur incontournable à la notoriété internationale. Il est ce soir dans le magazine d'archéologie de France Culture. François-Xavier Fauvel, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche au CNRS, vous êtes entre autres l'auteur du fameux Rhinocéros d'or, best-seller dont la version anglaise vient de paraître aux éditions de l'université de Princeton. Aujourd'hui, en France, c'est un autre ouvrage de 670 pages qui voit le jour et dont tout le monde parle déjà. Histoire de l'Afrique, de l'Akakous au Zimbabwe, aux éditions Belin. François-Xavier Fauvel, l'Afrique, c'est l'Afrique des origines, la sortie du ventre africain. C'est aussi une certaine pensée de l'immobilité dont témoignent les arts premiers ou le primitivisme ?
Oui, absolument, vous avez raison de pointer ces deux choses-là, à la fois les origines et à la fois les arts premiers et l'immobilité. Parce que ces deux aspects-là fonctionnent ensemble, si je puis dire. Ce sont d'abord deux écrans, de paravents qui nous empêchent d'accéder au passé africain. Il y a dans le récit des origines africaines de l'humanité quelque chose qui nous incline à penser qu'une fois l'homme sorti d'Afrique, une fois l'homme sorti de son berceau pour aller peupler le reste du monde, l'histoire s'est déployée dans le reste du monde, précisément, et a cessé de se déployer en Afrique. Il faut par conséquent déjouer cette idée que les origines ont eu lieu une fois pour toutes en Afrique et auraient en quelque sorte paralysé l'histoire. Ce que dit ce livre, ce que disent tous les chercheurs qui ont contribué à ce livre, c'est que l'histoire a continué en Afrique et qu'elle est extrêmement riche.
Et l'histoire de l'Afrique surprend. Elle surprend par ses singularités.
Oui, elle surprend par ses singularités qui sont nombreuses. Les trajectoires historiques des sociétés africaines sont multiples. Elles ne sont pas uniformes. La longue histoire de l'Afrique, qui commence à la préhistoire récente, n'est pas celle d'un rouleau compresseur qui passe, qui effacerait devant lui les sociétés du paléolithique, les chasseurs-cueilleurs, pour peupler l'Afrique uniquement de paysans, d'agropasteurs. Et puis le néolithique n'est pas non plus ce qui vient effacer devant lui la diversité des sociétés. Les âges des métaux ne viennent pas ensuite effacer les sociétés antérieures. Les empires n'éliminent pas non plus la diversité des sociétés. Il y a donc en Afrique des trajectoires historiques qui laissent cohabiter les unes à côté des autres des sociétés qui pratiquent des formes d'économie différentes, qui pratiquent des modes d'organisation sociale différents, des modes d'organisation politique différents, des langues différentes. Et s'il y a une singularité sur laquelle je voudrais véritablement attirer l'attention, c'est celle-là, c'est celle d'une cohabitation des sociétés. C'est ce qui fait, de mon point de vue, qu'il est très intéressant, non seulement de se pencher sur l'histoire de l'Afrique, mais aussi de regarder l'histoire du reste du monde depuis l'Afrique.
Donc des formations étatiques avoisinent avec des sociétés agricoles non centralisées, ou celles de chasseurs, par exemple, dans les forêts. La préhistoire côtoie le Moyen-Âge.
Oui, tout à fait. On le voit effectivement à toutes les époques. On voit des royaumes, on voit des empires, on voit des sociétés marchandes qui connectent l'Afrique avec le reste du monde, qui cohabitent, qui voisinent avec des sociétés qui ont conservé des formes d'organisation sociale très différentes, non centralisées, des chefferies par exemple, ou d'autres formes d'organisation politique, les sociétés à classe d'âge par exemple, qui sont si originales en Afrique de l'Ouest ou en Afrique orientale, et puis des chasseurs-cueilleurs qui vivent d'une façon encore très très différente. Ces sociétés cohabitent, échangent, s'interpénètrent les unes les autres sans s'effacer, sans s'abolir. Bon, et c'est ce qui fait toute la richesse des sociétés. Il faut en tirer une conséquence, c'est qu'on ne peut pas appliquer à l'Afrique une périodisation unique qui ferait passer toutes les sociétés un peu de façon finaliste ou de façon évolutionniste, du paléolithique au néolithique, du néolithique aux âges des métaux, des âges des métaux aux âges des empires, etc. Et il faut par conséquent abandonner cette périodisation évolutionniste et regarder les sociétés africaines et leur trajectoire dans toute la complexité de leurs évolutions respectives.
Oui, bien sûr, nous avons une sorte de vision de l'évolution extrêmement linéaire. Mais comment expliquez-vous ce phénomène en Afrique ?
Alors là, c'est une question...
C'est quand même très très curieux.
C'est une question très intéressante. Je pense que cette évolution multiple, non linéaire, qui fait cohabiter les sociétés, a à voir avec la très grande diversité des paysages africains, des environnements africains.
Donc des niches ?
Voilà, qui à plein d'égards, effectivement, est un paysage très accidenté, qui ménage des espaces très différents les uns des autres en termes d'altitude, en termes de conditions sanitaires, en termes de plantes cultivables dans chacun de ces terroirs, en termes d'animaux qui sont adaptables à chacun de ces espaces, etc. Je ne suis pas en train de dire, loin de là, que l'Afrique contraint les sociétés, détermine les sociétés. Je suis en train de dire que les paysages africains sont un défi qu'ont relevé les sociétés africaines, qui ont été contraintes d'être beaucoup plus adaptable et beaucoup plus inventive que dans beaucoup d'autres régions du monde. C'est cette inventivité-là des sociétés africaines qui, moi, me frappe authentiquement, voilà, dans mon regard et dans mon expérience de l'histoire africaine.
Les chasseurs, ce sont qui ? Ce sont les sociétés, par exemple, pygmées ou les San d'Afrique du Sud ?
Ce sont exactement eux, voilà, qu'on aurait tendance un peu hâtivement à voir comme des reliques du passé, des sociétés qui auraient en quelque sorte été oubliées dans l'évolution de l'histoire de l'Afrique.
Ils ne sont pas des oubliés de l'histoire, puisque, par exemple, les San ont été des éleveurs.
Absolument, et puis on voit qu'à toutes les époques, lorsqu'on a les documents qui nous permettent de le percevoir, on voit à toutes les époques des sociétés de chasseurs qui sont interconnectées avec des royaumes. On sait que à l'époque du royaume de Mapungubwe qui a livré ce fameux rhinocéros en or, mais à l'époque du Zimbabwe aussi, qui sont ces espèces de grands ensembles de forteresses qui jalonnent tout le haut plateau du Zimbabwe actuel, on voit bien que des sociétés autour, là, et notamment les chasseurs-cueilleurs du Kalahari, sont interconnectées et échangent avec ces formations étatiques, des produits qui sont amenés à circuler sur des milliers de kilomètres. On voit donc qu'à toutes les époques, les chasseurs-cueilleurs ont été connectés avec les autres grandes formations politiques africaines.
Cette histoire de l'Afrique, elle est aussi avant tout l'œuvre combinée d'historiens et d'archéologues, car pour faire cette histoire, toutes les traces doivent être prise en compte ?
Oui, c'est tout à fait exact. Une histoire de l'Afrique ancienne aujourd'hui ne peut être qu'une histoire collective. Bon, et c'est pourquoi j'ai réuni pour ce livre plus d'une vingtaine d'auteurs, historiennes, historiens, archéologues, pour mettre leurs compétences en commun sur certaines régions ou certaines périodes. Oui, vous avez raison, en histoire ancienne de l'Afrique, on peut recourir à l'écrit, parce que l'écrit existe. On peut recourir à l'archéologie, parce que l'archéologie a un potentiel absolument phénoménal en Afrique, mais il faut aussi les matérialités, mais on peut aussi recourir à toute une série d'autres de vestiges qu'il nous appartient comme chercheurs de transformer en documents à partir desquels on peut reconstituer l'histoire de l'Afrique. Et en allant jusqu'au bout de ce raisonnement-là, il nous appartient de faire de tout ce qui est présent des vestiges du passé. Le présent est un vestige du passé, il nous appartient en historien, en archéologue, en linguiste comparé, en généticien des plantes, en généticien des animaux, en généticien des sociétés humaine, il nous appartient de considérer tous ces vestiges du présent comme des documents nous permettant de reconstruire des états manquants du passé de l'histoire de l'Afrique.
Justement, l'archéologie, l'histoire, mais qu'en est-il de la linguistique, de la diversité des langues, de l'expansion bantou que l'on compare à celle des Indo-Européens, si cette dernière a existé ?
Alors, les langues sont précisément un trésor documentaire. Il y a plus de 2000 langues parlées en Afrique.
C'est 500 bantou, hein, c'est ça ?
Et 500, voilà. Ces langues sont un véritable trésor. Ça, chez certains, ça peut donner l'impression que l'Afrique est un patchwork culturel, une simple juxtaposition de pièces de puzzle. Bon, mais voyons ces langues comme un véritable trésor de documentaire à partir duquel il est possible de reconstituer des états de langue manquants. On peut collecter des langues, on peut collecter du vocabulaire, on peut collecter des formes grammaticales. Et puis ces langues, on peut les comparer deux à deux, voilà, et reconstituer du vocabulaire qui appartenait à ce qui était leur langue mère, qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis ce vocabulaire vocabulaire, on peut à nouveau le comparer deux à deux avec d'autres langues qu'on aura reconstituées selon le même processus. Et on peut de la sorte savoir quelle langue, ou en tout cas quel vocabulaire était employé par des sociétés qui ont disparu il y a 500 ans ou il y a 3000 ans. Et ce vocabulaire nous est très utile parce que il contient des noms de plantes, il contient des noms d'animaux, il contient des noms de techniques.
Et c'est un état des savoirs.
C'est un état des savoirs, c'est exactement comme en archéologie, c'est un état stratigraphique des langues et on peut, grâce à ça, savoir quel paquet culturel était employé à certains moments dans certaines régions.
Le bantou, c'est donc 500 langues, ça partirait du Cameroun jusqu'au Kenya, c'est absolument gigantesque,
absolument,
c'est une véritable épopée.
C'est exactement ça, on voit très bien sur la carte des langues de l'Afrique, ce grand aplat de langues bantoues qui s'étale depuis effectivement le Cameroun et le Nigeria jusqu'à l'Afrique du Sud, qui présente un grand nombre de caractères communs qui pour, dans certains cas, sont intercompréhensibles. Il y a cette fameuse anecdote d'un voyageur portugais à la fin du 15e siècle qui a vécu quelques années au Congo et puis qui a été employé comme marin dans l'expédition de Bartolomeu Dias en 1488, celle qui contourne pour la première fois l'Afrique. Et à sa grande surprise, on le débarque sur la plage et à sa grande surprise, il comprend ce que disent les gens sur cette plage au bout de l'Afrique du Sud. Il y a là une espèce de miracle linguistique, voilà, où à deux extrémités de l'Afrique, on parle des langues qui sont intercompréhensibles. Ce sont ces langues bantoues qui ont une histoire relativement récente, de l'ordre de 3000 ans, et que l'on peut reconstruire en utilisant les outils de la linguistique comparée, et qu'on peut restituer visuellement, graphiquement, sur des cartes en montrant par où ces langues sont passées, par où elles ne sont pas passées, comment elles se sont divisées, comment elles se sont installées dans de nouveaux paysages.
On voit certains couloirs, par exemple.
On voit des couloirs se dessiner, on en voit plusieurs. On voit un couloir qui contourne la vaste forêt équatoriale d'Afrique centrale. On voit un couloir qui longe la côte atlantique. On voit des corridors qui se rejoignent à certains moments. Et on comprend, grâce à ça, comment cette grande migration s'est accompagnée du déplacement de populations, dans certains cas de transfert de langues sans mouvement de population, s'est accompagnée de la diffusion de certains animaux, de certaines techniques également, comme la métallurgie du fer, et on est capable de reconstituer cette histoire de société qui utilise comme véhicule des langues, des techniques, des animaux, etc.
Curieusement, on parle très peu de l'Afrique, hormis votre Rhinocéros d'or. Les ouvrages sur son histoire, son archéologie, sont vraiment rarissimes. J'ai souvenir du livre de Marianne Cornevin, paru en 1993, et qui alors avait déjà surpris tout le monde.
Oui, vous avez raison de pointer cette absence de l'Afrique dans les savoirs communs. C'est l'une de mes préoccupations très très fortes. Les savoirs sont disponibles aux spécialistes, évidemment. Nous sommes un certain nombre d'archéologues ou d'historiens à travailler dans nos domaines. Et c'est ce qu'on nous demande. Mais on nous demande aussi de rendre ces savoirs sur l'histoire de l'Afrique disponibles. Bon. Et c'est l'une de mes véritables préoccupations. Lorsqu'on réfléchit aux trajectoires des sociétés, lorsqu'on enseigne l'histoire à nos enfants dans les écoles, un certain nombre de choses sont disponibles. La Méditerranée est disponible. La République romaine, l'Empire romain sont disponibles. La Mésopotamie, l'Égypte sont disponibles. L'invention de la démocratie à Athènes est disponible. Un certain nombre d'autres civilisations sont disponibles. Mais
L'Égypte, en Afrique.
Absolument. Mais l'histoire de l'Afrique ne nous est souvent pas disponible.
Bon. Et peut-être l'Éthiopie, qui est un cas à part.
Donc il y a un certain nombre de lieux, de moments de l'histoire africaine qui sont disponibles. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas. Et on sait bien que, par exemple, l'histoire du Mali a fait une très très brève apparition dans les programmes scolaires pour en ressortir très très vite. Et pourtant, nous avons besoin de ça. Et parce que l'histoire de l'Afrique devrait faire partie de la grande conversation globale sur l'histoire des sociétés en général, sur l'histoire de nos identités, bon, sur ce qui a contribué à la marche du monde depuis des millénaires. L'histoire de l'Afrique doit non seulement être disponible pour aujourd'hui, mais ça doit aussi nous faire comprendre que les sociétés africaines ont toujours déjà été là, qu'au XIVe siècle, le royaume du Mali conversait économiquement, politiquement, diplomatiquement, culturellement avec le monde islamique, avec le monde méditerranéen, avec la chrétienté latine du Moyen-Âge, et ça a été vrai à toutes les époques.
Pourtant, dans ma brève enquête, je lisais qu'un chercheur écrivait en 1995 et qu'il allait être de plus en plus difficile de maîtriser des connaissances globales sur l'histoire de l'Afrique. Donc, on collecte, on fouille.
Oui, on collecte, on fouille, mais il y a un certain nombre d'archéologues.
Et la synthèse devient de plus en plus difficile.
Absolument, c'est le cas sans doute dans tous les domaines de savoir liés au passé. Il y a non seulement effectivement une démultiplication des sites fouillés, bon, mais vous le savez aussi, en archéologie, il y a une démultiplication des techniques. C'est une discipline qui devient de plus en plus technique et qui par conséquent rend de plus en plus délicate la synthèse. De plus en plus délicate et néanmoins de plus en plus urgente aussi. C'est-à-dire que cette synthèse n'est pas un luxe que nous nous offrons de temps en temps, elle fait partie de notre travail et elle fait même partie de notre démarche. C'est-à-dire que le risque d'oublier la synthèse, ce serait de cloisonner complètement les savoirs et de les rendre vains. Bon. Donc il y a cet effort à faire qui fait partie de notre travail en historien et en archéologue, voilà, que de reconstruire des histoires disponibles. Bon, j'allais dire des scénarios, oui, des récits disponibles du passé.
France Culture,
Carbone 14,
Vincent Charpentier.
François-Xavier Fauvel. Avec l'Afrique, tous les champs ont été affectés par les a priori. Ainsi, dans celui des innovations techniques, le fer, bien sûr, ne pouvait avoir été inventé que par des phéniciens.
Voilà, ça fait partie effectivement de ces a priori. On a cette tendance malheureuse à croire que les innovations techniques en Afrique sont venues de l'extérieur. Bon. Et on renvoie souvent l'originalité de l'Afrique aux origines, précisément. Bon. Pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce défi qu'ont endossé les sociétés africaines devant la diversité de leurs environnements, elles ont été formidablement inventives au point de vue technique. Voilà, un chapitre dans l'ouvrage qui est dû à ma collègue Caroline Robion de Toulouse montre bien la diversité des technologies métallurgiques en Afrique qui ne peut pas se résumer à une histoire linéaire qui commencerait par le bronze pour se poursuivre avec le cuivre et puis ensuite le fer, etc. Non, on observe très clairement sur les terrains africains, et maintenant la documentation est quand même ample. Bon, on observe très clairement une démultiplication des techniques, une cohabitation parfois au sein d'un même village, voilà, de différentes techniques métallurgiques, de sidérurgiques liées au fer en l'occurrence, et on observe aussi des explosions d'inventivité à certains moments autour du bronze en particulier, sans que nous ayons a priori de points de comparaison à une échelle régionale. Bref, on aperçoit le très frappant est véritablement celui-là, celui d'une inventivité qui se déploie à travers les sociétés africaines sur ce plan-là des métallurgies, mais également sur le plan d'autres innovations. Je pense là en particulier à cette formidable innovation qu'est l'invention du pastoralisme, le pastoralisme de la vache.
Une civilisation de la vache.
Une civilisation de la vache dont il faut mesurer la très profonde singularité. Qu'est-ce que ça veut dire élever des vaches et exclusivement des vaches? Ça veut dire se priver de toutes les autres ressources, non seulement des autres animaux, mais aussi de l'agriculture. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire pour une société que de se priver de toutes les autres ressources pour tout concentrer sur la vache, mettre la vache au cœur de toutes les transactions économiques, sociales, juridiques, matrimoniales, politiques, avec le monde des morts? Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un seul coup se rendre mobile. Ça veut dire cette capacité d'emmener ces vaches, de les aiguillonner devant soi pour traverser des paysages très différents les uns des autres. Ça veut dire faire le choix de l'adaptabilité. Bon. Et en choisissant de sacrifier, on pourrait dire le confort néolithique, celui consistant à produire à partir du sol, à partir d'un terroir, certaines sociétés ont fait le choix d'une très très grande adaptabilité à travers différents environnements. Elles se sont donc permis de traverser différents environnements. Ça avait évidemment un prix, c'était celui de choisir obligatoirement de commercer avec des sociétés sédentaires dans les différents environnements rencontrés. Mais on a là une formidable innovation, j'allais dire une innovation idéologique, consistant à tout centrer sur la vache pour se rendre adaptable.
Une fois n'est pas coutume, commençons par l'Afrique de l'Est et le monde Swahili. L'océan Indien est alors une sorte de Méditerranée, une mer interconnectée dès le 3e ou le 2e millénaire avant notre ère.
Oui, il y a un chapitre dû à Philippe Bojard dans l'ouvrage qui montre très très bien que l'océan Indien a fonctionné comme une mer dans laquelle circulaient les gens, des marins qui emportaient avec eux des plantes, qui emportaient avec eux des animaux, qui emportaient avec eux des techniques de navigation, qui emportaient avec eux des langues, des mots. Bon, on le voit avec le peuplement de Madagascar, par exemple, par des Austronésiens. On le voit aussi avec la circulation en direction de l'Afrique de plantes très anciennes, comme la banane, mais on le voit aussi avec la circulation en dehors de l'Afrique de plantes africaines. Donc oui, il y a eu, à un moment donné, et on en a les vestiges présents, qu'il nous appartient de considérer une fois de plus comme des documents pour reconstruire les états passés. On a cette indication que l'Afrique, via sa façade indo-océanique, a été connectée depuis très longtemps, depuis plusieurs millénaires, avec le reste du monde indo-océanique, avec toutes les périphéries indo-océaniques, c'est-à-dire la mer Rouge, la péninsule arabique, le golfe Persique, la façade indienne, et puis d'autres régions de ce monde indo-océanique et pacifique.
François-Xavier Fauvel, peut-on faire une archéologie de la diffusion des plantes et des animaux? Le millet, le pois bambara, le riz africain ou le sorgho?
Oui, on peut en faire une archéologie.
Avec ces cheminements?
On peut en faire une archéologie parce que vous savez que voilà, les archéologues aujourd'hui travaillent à partir de graines, à partir de pollen, donc on peut le faire. À ce jour, l'outil le plus commode pour faire cette archéologie-là, c'est la linguistique comparée, qui nous montre le cheminement de mots voilà, qui accompagnent des plantes, par exemple, ou qui accompagnent des animaux d'un bout à l'autre du vieux monde, aux époques préhistoriques récentes et aux périodes historiques.
Le monde Swahili, c'est un réseau de villes qui sont autant de ports, autant de places commerciales. Il faut relire peut-être Ibn Battuta à Mogadiscio.
Absolument. Alors, Ibn Battuta, au XIVe siècle, ce grand voyageur de l'islam, parti du Maroc actuel, et puis qui passe l'essentiel de sa vie à voyager dans l'ensemble du monde islamique avec un projet intellectuel qui est celui de rencontrer tous les sultans de la terre, et puis peut-être même un petit peu plus loin. Bon. Et en effet, Ibn Battuta fait escale à un moment donné à Mogadiscio. Il n'en garde pas un très très bon souvenir. Du reste, il trouve que ça pue, qu'on égorge un peu trop de chameaux, etc. Néanmoins, c'est intéressant de voir que Mogadiscio, voilà, dans cette, ce qui est aujourd'hui une arrière-cour, faut bien dire, en Somalie, était une ville connectée, voilà, du Moyen-Âge, participant en plein à l'extension médiévale de ce monde islamique. C'est pas seulement le cas à Mogadiscio, c'est le cas effectivement dans toutes ces cités swahili, jusqu'à Kilwa en Tanzanie, ou encore plus au sud, jusqu'à Sofala. Et toutes ces villes, effectivement, étaient à la fois complètement africaines, parlant du reste des langues bantoues, le swahili, bon, et en même temps complètement connectées au monde islamique.
Et le monde islamique, c'est bien sûr le golfe arabo-persique, mais ça va bien plus au-delà, ça va jusqu'à la Chine.
En effet, le monde islamique, c'est un monde interconnecté qui occupe, on pourrait dire, le méga-centre du vieux monde au Moyen-Âge. On pourrait, en caricaturant à peine, caractériser le Moyen-Âge de cette façon-là, en disant que c'est ce moment qui dure 7 ou 8 siècles de mise en connexion de différentes provinces du monde, voilà, autour d'un vaste monde islamique. Et ce monde islamique est effectivement qui va de Al-Andalus, l'Espagne musulmane, jusqu'à l'Inde, l'Afghanistan, bon, et qui va jusqu'en Tanzanie, au sud. À l'intérieur, des marchands y circulent. Bon, il y a des cas évidemment rares, comme celui d'Ibn Battuta, qui circulent presque partout, mais pour l'essentiel, les marchands restaient dans leur monde, et ces mondes étaient articulés, interconnectés les uns aux autres autour de seuils, autour d'endroits comme Aden, voilà, ou autour d'endroits qui étaient comme Alexandrie, voilà, qui étaient des articulations, des charnières entre ces différents mondes.
Ces céramiques chinoises, elles iront jusqu'au Grand Zimbabwe, par exemple?
Absolument. Alors, l'un des témoins...
C'est le bout du monde.
C'est le bout du monde, mais ce sont deux bouts du monde, notez-le bien. C'est-à-dire que la Chine, aussi bien que Grand Zimbabwe, ce sont deux bouts du monde. Il est intéressant, effectivement, de constater qu'on rencontre de la porcelaine et du grès céram chinois sur des sites en Afrique orientale, sur des frics. Bon, je me rappelle aussi, voilà, de cette émotion, voilà, découvrant un site archéologique du XIVe siècle en Éthiopie. Première chose, au sommet de l'éperon rocheux qu'on finit par atteindre, première chose découverte, un fragment de porcelaine chinoise. C'était du reste le seul qu'on n'a jamais trouvé là, mais il n'était pas venu là par hasard, il était le témoin d'échanges à longue distance. Alors, néanmoins, n'allons pas croire que les marchands chinois voyageaient jusqu'au Grand Zimbabwe ou que des marchands du Zimbabwe allaient s'approvisionner jusqu'en Chine. Une fois de plus, il faut se souvenir comment était articulé ce monde médiéval. C'était l'articulation de plusieurs mondes et les marchands parcouraient leur propre monde avant de vendre leurs marchandises. C'était un monde dans lequel les marchandises circulaient beaucoup plus loin que les marchands eux-mêmes.
Les routes ne sont pas que maritimes. Le meilleur exemple est bien entendu la traversée du Sahara entre le Maghreb et les cités-états du Sénégal, du Ghana, du royaume de Gao. D'ailleurs, en 1964, Théodore Monod découvre une épave caravanière, le chargement de 6 chameaux du 11e au 13e siècle.
Mais non, c'est
extraordinaire, ça.
Absolument extraordinaire. Site remarquable dans la partie absolument déserte du Sahara qu'on appelle le Empty Quarter, le quartier quartier est vide, voilà, dans l'est de la Mauritanie. Et là, effectivement, ils découvrent un site qui ressemble pas à grand chose, qui ressemble à deux valises posées par terre. Bon, et puis et ce site livre des barres de laiton et puis des cories, donc ces coquillages de l'océan Indien que vous connaissez bien, voilà. Et là, en quelques heures, parce qu'il a juste quelques heures avant de repartir, il lui a fallu voilà un peu plus d'une quinzaine de jours pour atteindre le site. Il a juste ce qu'il faut d'eau et de provisions de bouche pour faire le trajet dans l'autre sens. Il a quelques heures pour faire ses observations. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire collecter quelques barres de laiton, collecter des cories, faire une toute petite fouille, prendre quatre photos, faire quatre schémas, interpréter ce qu'il voit et puis repartir. Et je prends souvent ça comme exemple. C'est que c'est un exemple même de ce que c'est que la documentation sur le terrain, parce que ce site, plus personne ne l'a revu. Et par conséquent, ce qu'a vu, ce qu'a compris, ce qu'a interprété, ce qu'a dessiné, ce qu'a documenté Théodore Monod en quelques heures, c'est tout ce que nous connaissons sur ce site archéologique.
L'histoire s'écrit et l'Afrique écrit. Pensons bien sûr à l'Égypte pharaonique, à Méroé, l'Éthiopie ou au Libico-Berbère.
Alors, en effet, on dit...
Avec des textes historiques. Oui. C'est ça qui est très important.
Oui, on dit souvent que l'Afrique n'a pas d'écriture. Voilà. Et même les gens qui concèdent que l'Afrique a une histoire concluent souvent en disant « Oui, mais bon, quand même, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas d'écriture. » Non, il y a de l'écriture en Afrique. C'est même assez singulier de constater qu'il y a eu beaucoup de systèmes d'écriture utilisés en Afrique. Ce qui est vrai néanmoins, c'est que l'usage de ces systèmes d'écriture était relativement restreint dans chacune des sociétés qui les ont inventées et employés. Effectivement, le libico-berbère est utilisé dans une très très vaste région, depuis le Maghreb jusqu'au Sahara central, jusqu'au sud du Sahara central, jusqu'au Burkina Faso. Donc on a là une région très très vaste. Mais des usages de l'écriture sont restés très très minces et souvent réservés à des usages funéraires ou à des usages de témoignages, de graffitis, etc. Néanmoins, on a plusieurs endroits en Afrique. On pense évidemment à l'Éthiopie qui a utilisé un système d'écriture et qui a produit de l'écrit depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui avec le même système d'écriture qui s'appelle le Gèze, la même langue qui s'appelle le Gèze. On pense à d'autres endroits, la Nubie qui, à son époque chrétienne au Moyen-Âge, a utilisé aussi plusieurs système d'écriture et plusieurs langues. On pense évidemment à Tombouctou et aux autres cités sahéliennes, aux autres cités musulmanes du Sahel qui, à partir du XVIe siècle, ont constitué des bibliothèques. Et puis, dans certains cas... un chapitre par Bertrand Hirsch est consacré à ce phénomène dans le livre, on produit des récits historiques. Bon, s'il s'agit par exemple des tarirs, voilà, les chroniques historiques de Tombouctou, mais on a aussi des exemples sur la côte Swahili, à Kilwa, on a aussi des exemples en Éthiopie, on a des exemples dans d'autres endroits, d'un moment donné où des lettrés de ces différentes régions d'Afrique produisent des chroniques historiques.
L'Afrique a bien entendu une histoire, pour partie perdue. Cette déperdition de cette histoire serait-elle due à nous, depuis les Portugais jusqu'à la colonisation ?
J'ai envie de répondre oui, c'est-à-dire que ce cliché qui nous encombre, qui est celui de l'Afrique sans histoire, ou de l'Afrique sans écriture, ou de l'Afrique sans documentation, ou de l'Afrique sans, vous voyez, l'Afrique sans, l'Afrique privée de quelque chose, est un cliché dont il faut faire l'histoire. Bon. Et l'histoire de ce cliché, elle s'enracine, je crois, en effet, dans plusieurs siècles de traite esclavagiste et dans plusieurs siècles de regard dépréciatif sur les sociétés africaines, parce que pour transformer l'homme ou la femme africain en esclave, il fallait accompagner ça d'une idéologie. D'une idéologie de marchandisation, d'une idéologie de déni de la singularité et de l'épaisseur sociale, de l'originalité sociale, de l'inscription de l'individu dans des appartenances qui sont familiales, qui sont sociales, qui sont linguistiques, etc. Et ce déni-là, alors même que la traite des esclaves a disparu, continue d'être actif dans nos esprits et dans nos mémoires.
François-Xavier Fauvel, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre, L'Afrique ancienne, de Lakakou Sozimbé. Zimbabwe, donc paru dans Monde Ancien aux éditions Belin. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Éric Boisseil avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.